Vous êtes chef d'entreprise ou conjoint d'une entreprise artisanale et vous êtes non salarié? Savez-vous que vous contribuez chaque année pour bénéficier d'un financement de vos formations? Rendez-vous sur le site fafcea.com ou contactez l'organisation professionnelle représentative de votre métier pour vous aider dans vos démarches.
Vous écoutez
RMC.
RMC. 7h-10h, votre auto.
François Sorel, Jean-Luc Moreau.
Et bien voilà, c'est parti. Bonne année à vous toutes et à vous tous en ce 3 janvier 2021. Bienvenue sur RMC, bienvenue dans ce week-end des experts. Un week-end des experts un peu particulier, déjà parce que c'est le premier de l'année. Et la deuxième particularité, c'est que c'est le dernier de l'année. Donc, si vous voulez, il y a quand même pas mal de choses.
Ouais, c'est même le dernier dernier.
C'est le dernier dernier.
Ouais, c'est voilà. la DDR, comme on disait à comme la fin de la Première Guerre mondiale.
On a pu vous le dire depuis quelques semaines. C'est la fin de ce week-end des experts. Ça y est, on y est. Dernière émission, dernières heures à passer avec Jean-Luc Moreau pour votre rendez-vous auto. Vous le savez, hein, c'est une décision qui a été prise il y a quelques semaines de cela. Et vous retrouverez à partir de la semaine prochaine, donc les 9 et 10 janvier, la matinale de BFM TV. C'est une matinale commune entre BFM TV et RMC qui sera donc en remplacement de ce week-end des experts. Pour cette dernière, Jean-Luc, on va se faire plaisir. On va retrouver bien sûr vos questions au 32-16. On va parler de toute l'actualité dans le monde de l'automobile, mais aussi tous les intervenants qui auront un peu marqué ce rendez-vous auto.
Oui, on aura Céline Kastner,
voilà. Qui doit être bien contente parce que pour la, ça, c'est la dernière fois qu'elle se lèvera tôt.
C'est la dernière fois qu'elle va supporter notre humour douteux. Même chose pour Rémi Jossaume.
Elle doit être soulagée.
Ouais. Même chose pour Rémi Jossaume, même chose pour François Alain qui sera avec nous en studio tout à l'heure.
François Alain, notre ami François Alain que vous pouvez retrouver dans Vintage Mécanique sur RMC Découverte, il sera là aussi.
Voilà, et puis on aura évidemment vos questions et on va surtout faire un petit panorama de ce qui nous attend pour cette année 2021 en matière d'automobile. Oula. En espérant, vous savez, le fait qu'on ait passé en fait le cap fatidique de 2020, on se dit bon, 2021 finalement ça peut pas être pire.
On va voir si c'est
possible
ou pas.
Qu'en est-il en matière d'automobile? Une petite indication, il y a assez peu de bonnes nouvelles.
Bon,
dans ce qui nous attend.
Après l'année 2020 dégueulasse qu'on a vécu, ouais, je pense que franchement ça peut être que mieux.
Ouais, hein. Oui.
À moins qu'il y ait une explosion nucléaire globale, mais bon, on espère que ça ira mieux quand même. On retrouvera vos questions donc 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Alors comme c'est le dernier week-end des experts auto. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver Jean-Luc pour rester en contact avec lui sur Facebook. Hein, Jean-Luc. Jean-Luc a créé une petite page Facebook il y a quelques temps de cela.
Ouais, j'ai créé un compte et puis là je vais faire une page bien étoffée.
Ah, ça c'est
voilà,
bien.
Pour
d'accord.
Expliquer un
avec
peu.
Avec des photos, des vidéos.
Ouais, c'est ça. Oui.
Voilà, n'oubliez pas de mettre la Fuego.
Oui.
N'oubliez pas la Fuego, comme ça je la crée de temps en temps la photo Fuego.
C'est ce qu'il faut. Ouais.
Voilà, donc vous pourrez garder contact avec Jean-Luc et puis me concernant. J'aurai le plaisir de vous retrouver. Alors dès demain, finalement, j'enchaîne direct. Je change de radio, j'arrête RMC pour aller sur BFM Business. Et vous me retrouverez demain en direct du lundi au jeudi pour Tech & Co. Entre 20h et 22h. Voilà, je suis malgré tout alors très peiné et triste de quitter ma radio de cœur RMC que je suis et qui me suit depuis de très nombreuses années.
Ça fait combien? 30 ans
Quasi. Pratiquement.
Ah ouais.
Vous vous rendez compte? Et oui, j'ai commencé à Monaco, monsieur.
Ouais, vous aviez 10 ans, alors.
Vous vous rendez compte? Et voilà, ça se voit pas. C'est ça qui est fort. Et donc, rendez-vous pour tous ceux qui sont intéressés par les nouvelles techno et qui veulent avoir un peu de nouvelles sur BFM Business dès demain, entre 20h et 22h, à la radio et en télé aussi, d'ailleurs, au passage. On va commencer tout de suite par vos questions. Et nous avons qui, Guillaume? Parce que Guillaume me montre le point comme ça, le pouce levé. Mais un auditeur, en général, ne s'appelle pas pouce levé. Il s'appelle celui-ci, Alain. Et on l'accueille avec plaisir. Bonjour, Alain.
Bonjour, Alain.
Bonjour.
Bienvenue, bien. Alain. Oui, mais écoutez, ça va. Bonne année, Alain.
Oui.
Bonne année à vous aussi. Hein. Et puis, je suis content d'être le premier de la fin, on va dire. Le premier de l'année, et puis ça sera la dernière émission, quoi. Je veux dire, c'est dommage. C'est dommage.
En tout cas, merci de nous avoir appelés. Merci de vous être levé pour nous. Alain, vous nous appelez d'où?
Dans le 91, de Montgeron.
Montgeron, très bien. D'accord, pas très loin de Paris.
Pas très loin de Paris.
Et alors, on vous écoute.
Ma question était, actuellement, j'ai un Scénic 4 en LOA que je dois rendre cette année, dans le mois de juin, on va dire. Et comment je vais dire, je voudrais savoir, est-ce que j'ai déjà une Toyota Yaris hybride Et je me demande s'il faut que je me tourne pour changer une deuxième voiture en LOA, s'il faut que je me tourne sur l'hybride, soit rechargeable ou je sais pas quoi prendre en fin de compte.
Ouais, j'allais vous demander qu'est-ce que vous faites comme type de trajet, quoi. C'est surtout ça qui va définir le choix du véhicule.
Bah, cette voiture-là sert en général pour les vacances, on va dire, en majorité, c'est-à-dire que c'est un peu d'autoroute, voilà, et beaucoup d'autoroute, et puis ma compagne, ma femme, elle s'en sert le matin, il faut faire un kilomètre ou deux, quoi, pour amener le petit à l'école. Et c'est vrai que le Scénic 4 derrière est pas très grand pour trois adolescents, quoi. C'est un peu serré, on va dire. Et voilà, je sais pas trop quoi prendre après si je continue sur un Scénic 4, et je sais pas s'il va continuer d'ailleurs. Il paraît qu'il va s'arrêter, je suis pas sûr.
On sait que vous voyez, je commence à perdre mes mots, il était temps que ça s'arrête. Hein.
Oui,
on sait que l'espace va s'arrêter, le Scénic, est-ce qu'il va s'arrêter? En tout cas, s'il ne s'arrête pas, il sera profondément modifié pour devenir un SUV, puisque là, aujourd'hui, il est un peu le cul entre deux chaises, et c'est ce qui lui a porté préjudice, d'ailleurs. Renault n'avait pas osé délaisser le segment du monospace, qui n'est plus du tout à la mode. Ils n'ont pas franchi le pas avec le Scénic 4, il est entre deux, et ça n'a pas été un bon calcul. Hein. À l'époque, vous savez, Peugeot avait décidé, franchement, de passer sur du SUV. Renault a hésité, ils ont eu tort.
Oui.
Alors, dans votre cas, dire je vais passer, si vous avez déjà une Yaris hybride, mais votre femme, elle va chercher les enfants à l'école avec le Scénic.
Ouais. Ouais. Et pourquoi pas le matin seulement.
Pourquoi pas avec la Yaris?
Bah moi, je vais travailler avec. Moi.
Ah, vous allez travailler avec la Yaris, d'accord.
La voiture, elle n'est plus là.
D'accord. Donc, si vous avez déjà une Toyota hybride, j'imagine qu'au moins sur la fiabilité, je n'ai pas besoin de vous faire l'article, vous savez.
Non, c'est très, 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 très bien.
Voilà, bon, vous pourriez craquer pour un modèle hybride Toyota un petit peu plus gros pour remplacer votre Scénic. Hein. Vous pouvez craquer pour un F4, par exemple.
Voilà, ouais.
Ce qui serait pas un choix idiot. Vous connaissez déjà. Après, ce qui gêne les gens qui n'ont pas l'habitude de rouler avec les hybrides traditionnels, c'est le phénomène de patinage de la transmission. Mais comme vous y êtes habitué, il sera moins marqué de toute façon sur un RAV4 qu'il l'est sur la Yaris. Donc après, fiabilité absolue. Vous n'avez pas besoin d'un hybride rechargeable parce que vous me dites je fais de l'autoroute principalement. Puis là, 1 km. Franchement, bon, alors votre femme pourrait rouler toute la semaine en électrique sur de l'hybride rechargeable, mais le ticket d'entrée va pas être le même tarif. Ça va être plus cher. Ouais. Ça va être plus cher. Ça va être plus cher. Et là, autant sur du Toyota en hybride, je peux vous garantir la fiabilité, autant sur de l'hybride rechargeable avec des technologies différentes, parce que les hybrides rechargeables ont pratiquement tous, des moteurs thermiques avec des turbos. Or, ce qui fait la fiabilité des Toyota, justement, c'est d'avoir des moteurs atmosphériques sur les hybrides.
Ouais. Oui.
Donc voilà, bon, moi je serais vous, je ne prendrais pas ce risque-là. En plus, vous avez un concessionnaire Toyota, vous le connaissez.
Oui, tout à fait.
C'est toujours bien de rester en famille, entre guillemets, et d'essayer de négocier avec lui, d'avoir un loyer mensuel qui soit relativement doux. Juste un conseil quand même, si vous prenez un RAV4, prenez-le en 4 roues motrices. Même si vous vous dites, finalement, je ne vais pas au sport d'hiver. Non, c'est plus homogène et les consommations dans la réalité sont pas plus importantes qu'avec la version de roue motrice.
D'accord. Ok. Bon, je vais voir ça avec mon concessionnaire alors.
En plus, vous pouvez leur faire manger, même la Yaris, un peu manger de l'éthanol sans trop de problèmes.
Hein. Oui, mais là, la Yaris, moi, j'en suis super, super content. Maintenant, c'est vrai que c'est une manière de conduire, c'est une autre manière
de conduire. C'est ça, exactement.
Et choisir sa route pour essayer au maximum d'utiliser. Côté hybride, quoi.
Après, on fait le challenge éco-conduite. Après, on arrive à. On fait
je me fais des petits challenges. Hein.
Ouais,
j'essaye de faire. J'ai fait 720 km.
Ah ouais, 720 km avec les 35 litres du réservoir.
Voilà.
Chapeau. Hein.
Pas mal.
Ouais, chapeau.
Mais vous poussiez la voiture de temps en temps ou pas? Voilà.
Non,
même pas.
D'accord. Non, mais pousser, parce que François dit pousser, c'est-à-dire descendre et pousser la voiture. Voilà.
Ouais, c'est ça.
Non.
Oui, c'est ça, descendre et pousser.
Moi, je l'ai fait qu'une fois. Après, c'est vrai que c'est compliqué. On se fait un peu klaxonner derrière.
Ça fait mal aux jambes. Bon,
vous savez, on n'est pas obligé de rouler doucement pour faire de l'éco-conduite. Hein.
Oui, tout à fait. Oui,
attention.
Vrai,
ouais. On consomme plus à rouler à 60 km/h que rouler à 80, par exemple.
Merci en tout cas Alain pour votre appel au 32-16.
Merci Alain.
Jean-Luc, l'une des plus belles voix de votre auto, c'est pas vous, c'est Céline Kastner.
Oui, je sais.
Vous l'avez remarqué quand même. Et Céline est là pour cette dernière. Bonjour Céline.
Bonjour à tous les deux, bonjour aux auditeurs.
Merci. Bonjour Céline.
Directrice juridique des politiques publiques de l'Automobile Club Association.
Ouais, c'est la dernière fois qu'on la réveille, Céline.
Et je, triste. Pense, oui. Et je pense qu'elle a dû faire une petite danse de la joie.
Ouais, en disant,
ça y est, ils vont plus m'embêter dimanche matin.
Bah écoutez, non, même pas. Je dois dire que je suis assez triste que cette émission s'arrête. D'ailleurs, toute l'équipe à l'Automobile et nos adhérents aussi, parce qu'ils sont nombreux à vous écouter.
Bon, bah écoutez, vous avez mis vos schlappis de fête alors pour la dernière.
Oui, et puis là c'est la période, vous savez qu'on prépare Noël activement, donc.
Expliquez pour ceux qui sont pas alsaciens ce que c'est que des schlappis, tiens, parce que ça fait des années qu'on en parle de vos schlappis, mais il y a plein de gens qui doivent se demander ce que c'est.
C'est juste des pantoufles très très moelleuses, très rembourrées, qui nous permettent, vous savez que je vous appelle d'Alsace, d'affronter. Les fins d'année, les débuts d'année un peu froides. Voilà.
D'accord.
Bon, alors, Céline, l'année 2021 vient de commencer et on aimerait bien voir avec vous ce qui va changer pour les automobilistes en 2021.
Ouais, alors on peut commencer par les bonnes nouvelles, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Vous allez voir. Bah oui, oh les bonnes nouvelles avec un bonus qui arrive pour les voitures électriques d'occasion.
Oui, c'est ça. Alors, dans le bonus, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que il arrive pour le véhicule d'occasion, il sera de 1 000 euros. Et ce qui est intéressant, c'est que ça sera sans condition de ressources. Simplement, il faut que ce soit du véhicule électrique, qui soit immatriculé depuis au moins 2 ans en France. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça permet effectivement d'avoir de booster un petit peu le marché du VE d'occasion et d'avoir une visibilité sur ce terrain-là. Après, pour ce qui est du oui.
On parle de full électrique là. Hein.
Oui, oui, 100% c'est électrique. Oui, c'est pour du 100% électrique.
C'est pas hybride rechargeable, ça marche pas.
Typiquement, une Zoé d'occasion, voilà. Si elle a plus de 2 ans, parce qu'il faut que la voiture ait 2 ans, vous pouvez bénéficier de 1 000 euros de bonus écologique.
Très bien.
Voilà. Et par contre, dans le rang des mauvaises nouvelles, alors la grille du bonus continuera à s'appliquer jusqu'au 30 juin. Et ensuite, à partir du 1er juillet et en 2 temps, on aura un abaissement du montant du bonus de 1 000 euros au 1er juillet 2021. Et ensuite, une deuxième baisse de 1 000 euros également en janvier 2022.
C'est-à-dire, Céline, on est à 7 000. Au 1er juillet, on va passer à 6 000, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et ensuite, on va rebaisser encore de 1 000 euros.
À 5 000 en janvier 2022. Voilà.
D'accord, donc il faut se dépêcher en fait, d'acheter une voiture électrique avant le mois de juin, si on veut bénéficier du full bonus.
C'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est côté bonus. Et puis, il y a des choses qui évoluent aussi côté malus. Parce que
Donc là, on quitte les bonnes nouvelles.
Oui, ouais, bah, ça y est, les bonnes nouvelles, c'est fini.
Le réservoir de bonnes nouvelles est vide.
Voilà. D'accord. Donc maintenant, on attaque. Bon, alors le malus avec un nouveau barème qui est applicable, ça y est. Hein.
Oui, c'est ça. Donc, sans trop de surprise, on est plus vite éligible au malus puisque le seuil de déclenchement passe de 138 grammes à 133. Et puis au niveau de la grille, si vous la regardez un petit peu, 2020 et 2021, elle commençait à 50 euros pour atteindre 20 000 euros au max du max. Et puis maintenant, elle est de 75, c'est le premier montant du malus. Et elle grimpe jusqu'à 30 000 euros pour 219 grammes et plus. Donc voilà, on s'envole un petit peu dans la fourchette haute.
30 000 euros, ça paraît, mais c'est complètement démentiel, quoi. Au-delà de 219 grammes par kilomètre de CO2, on écopera de 30 000 euros de malus. C'est un truc de dingue.
Voilà.
Bon, alors il y a quand même, dans le malus, il y a quand même 3 petites nouvelles qu'on peut considérer comme bonnes. Il y avait une surtaxe avant sur les véhicules les plus puissants au-delà de 36 chevaux fiscaux. On payait 500 euros par cheval dans la limite de 8 000 euros. Ça, bon, ils laissent tomber. Ils se sont rendus compte que ça rapportait que dalle. Et surtout que les gens qui achetaient des voitures de plus de 36 chevaux, ils les achetaient plus. Hein, ils les achetaient à l'étranger, à rouler en France. Ça, c'était contre-productif au possible. Mmh. Il y avait un malus sur les modèles d'occasion de plus de 10 chevaux. C'est pareil, ça rapportait rien.
Ils ont arrêté.
C'est supprimé. Puis, il y a un malus annuel qu'on appelait sur les véhicules les plus polluants, j'adore. D'un montant, on payait comme une vignette, 160 euros tous les ans. Mmh. Voilà. Alors, il y a plein de gens qui se demandaient chaque année, quand ils recevaient le truc à payer 160 euros, ils se demandaient ce que c'était. Donc ça, c'est pareil, on arrête toutes ces mesures à la noix, en fait, qui rapportent rien et qui sont préjudiciables pour le marché automobile.
C'est ça. Et ça s'intègre dans une harmonisation, dans une refonte des taxes liées à l'immatriculation. qui a été simplifié et optimisé. Ouais, avec
parce que, voilà. Très honnêtement, il faut dire, même les spécialistes, on a du mal parfois à s'y reconnaître tellement ça change d'année en année. C'est du grand n'importe quoi. Hein. C'est du grand.
La finance, en général, on n'est pas beaucoup juristes à l'Automobile Club à vouloir s'y pencher parce que c'est un peu compliqué.
Bon, alors, dans les nouvelles aussi pour cette année, on peut considérer tiens, que c'est une bonne nouvelle quand même pour les vélos, les deux roues, les gros véhicules seront obligés de signaler leurs angles morts.
Oui,
c'est quoi ? Alors c'est quoi ? On ne comprend pas bien l'idée, c'est quoi ? Comment ça va se matérialiser ?
Alors, ça concernera les véhicules de gros gabarit, donc les plus de 3,5 tonnes, et ça consistera à signaler sur le véhicule, à l'avant et à l'arrière, les endroits des angles morts. Et ça permettra justement aux cyclistes, aux usagers vulnérables, effectivement, d'y prêter attention. Parce que vous savez que c'est typiquement le genre d'accident qui malheureusement survient souvent et ils sont souvent graves. Le conducteur peut être attentif, mais il peut avoir effectivement un usager vulnérable dans son angle mort et effectivement ne pas le voir. Et là, l'idée de la signalisation, c'est de protéger ces piétons, ces cyclistes et matérialiser sur le véhicule l'endroit de l'angle mort.
D'accord, voilà. C'est-à-dire que je suis en trottinette à côté du bus, sur le côté du bus, sur un autocollant qui dit « attention, à cet endroit-là, le conducteur ne vous voit pas ».
Exactement, donc ça peut être un autocollant ou un dispositif riveté et ça permettra de sensibiliser et c'est un dispositif obligatoire et ça concerne donc les gros véhicules qui ont notamment vocation à conduire en ville et c'est vraiment important parce que malheureusement, dans l'accidentalité, ce sont des circonstances d'accident qui reviennent extrêmement fréquemment. Donc là, il était temps d'agir et c'est une bonne nouvelle en matière de sécurité routière.
D'accord. Alors, François qui ne paye jamais les péages, hein, il passe toujours sans s'arrêter, ça va lui coûter plus cher cette année.
On m'appelle Alain Barrière.
C'est ça.
Bon, voilà, ça c'est pour vous, je vous l'offre, Céline. Elle est pour vous, celle-là.
Merci. Oui, il y aura à partir du mois de juin 2021 une augmentation des amendes en cas de non-paiement de péage. Et c'est notamment dans l'idée de développer les péages sans barrière. Alors le contexte, il est très clair, hein, c'est la loi de l'orientation des mobilités qui l'a instauré, l'a évoqué. L'idée, c'est de fluidifier le trafic et puis mettre des péages sans barrière, ben ça y contribue. Mais c'est aussi un risque de voir la fraude on va dire augmenter, puisque sans barrière, on peut être malheureusement plus facilement incité à passer sans payer. Et donc l'amende qui était déjà prévue passe d'une deuxième classe à une quatrième classe, donc c'est 90 euros d'amende pour être effectivement...
Ouais, plus le prix du péage, hein, il faut quand même le préciser.
Oui, évidemment.
C'est-à-dire que vous paierez le prix que vous auriez dû payer au péage, plus 90 euros.
Voilà. Après, la bonne nouvelle quand même, c'est que les sanctions se renforcent, mais qu'on met en place un système d'amende minoré à 10 euros si vous payez dans les 15 jours.
Ah.
Donc voilà, il y a quand D'accord. même l'idée, c'est quand même de ne pas sanctionner, rendre...
François, pour apprendre une carte d'abonnement aux amendes, est-ce que c'est prévu ça?
Ça non. L'abonnement au tarif autoroutier pour bénéficier effectivement si vous êtes un gros rouleur de tarifs plus avantageux, mais effectivement inclure l'amende dans votre abonnement, ça je crains que ce ne soit pas possible.
Ouais, et c'est comme les cartes de fidélité hein, pour les PV, ça n'existe pas.
Hein. Ouais, c'est dommage.
C'est-à-dire qu'au bout de 10 PV, un gratuit, non, ça marche pas.
Non, hein. Ça marche pas. Bon. Alors il y a un nom que les gens ne connaissent encore pas bien, mais qui vont apprendre à connaître l'année prochaine, c'est ZFE.
ZFE,
c'est quoi? Ça veut dire quoi, ZFE?
Même ZFEM, puisqu'on a rajouté un petit M, c'est les zones à faible émission mobilité. C'est ce qu'on appelait avant les ZCR ou avant encore les zones d'APA.
Ouais, on s'arrange pour brouiller les cartes comme ça. Quand les gens commencent à comprendre un truc, on change. Hein, c'est mieux.
Mais on est passé d'un mode de circulation restrictive à des zones à faible émission et on reprend un petit peu la sémantique qui est utilisée beaucoup sur le terrain européen et dans des pays voisins d'une autre. Donc là, ce sont des zones qui existent déjà, hein, mais elles vont devenir obligatoires pour un certain nombre de villes. D'une part parce que les normes de qualité de l'air ne sont pas respectées de manière régulière, et notamment lorsque le transport terrestre est à l'origine, effectivement, de manière importante, de ces dépassements. Donc il y avait déjà 3 villes qui étaient sous ce régime-là. avec donc Grenoble et Paris. Et là, on va rajouter 7 nouvelles métropoles dans la liste de ces zones, notamment...
Aix-Marseille, Montpellier, Nice, Rouen, Strasbourg. Mmh. Bah, Strasbourg, ça vous concerne, Toulon et Toulouse.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Merci beaucoup, Céline.
Le dispositif sera réglé par les fameuses critères que vous connaissez bien.
Critères, voilà, bien sûr. Et merci, Céline.
Évidemment, pour compliquer le tout, ça ne sera pas la même chose tout à fait partout.
Évidemment.
Là, quand vous irez d'une ville à l'autre, peut-être que votre voiture aura le droit de circuler dans une, mais pas dans l'autre.
Ça pimente un petit peu le tout.
Oui.
Merci beaucoup, Céline Castner. C'était un vrai plaisir et on se retrouvera quelque part, forcément, Céline.
Bonne continuation à vous et bonne année.
À bientôt, bonne année. On revient dans un instant, la météo, et on repart avec vos questions auto 32-16. N'hésitez pas à nous appeler. 32-16, l'appli RMC Direct Studio pour cette dernière de votre auto. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Le retour de ce week-end des experts l'automobile. Bon dimanche et bonne année à vous toutes et à vous tous. On vous souhaite plein de bonnes choses pour 2021. Une année 2021, espérons-le, plus clémente que la précédente. Jean-Luc, on va repartir tout de suite avec les questions et c'est Fabrice qui nous attend au 32-16. Bonjour Fabrice.
Oui, bonjour messieurs.
Bonjour Fabrice.
Bonjour monsieur Fabrice.
Comment allez-vous?
Ça va bien.
Comment allez-vous?
Ça va. Écoutez-vous?
Bon, moi ça va bien, c'est le week-end, donc c'est que ça va.
Eh ben voilà,
on va dire ça.
Et bonne année Fabrice, hein, bien sûr. Hein, puisque...
À vous aussi, à vous aussi, à vous aussi. Il le faut.
On vous écoute.
Je vous appelle pour avoir un avis sur un véhicule hybride maintenant qui a une bonne dizaine d'années. C'est sur le RX400H.
D'accord, ouais.
Voilà, c'est un véhicule que je souhaite acquérir. Et j'aurais eu à avoir votre avis suite à ce véhicule qui serait un véhicule hybride.
D'accord. Vous voulez l'acheter évidemment d'occasion s'il y a un moment qu'il n'existe plus.
Oui, effectivement, c'est un véhicule qui... Bah, c'est pour avoir un véhicule hybride à tarif abordable.
Combien il y a de kilomètres?
Ça serait, en fait, en regardant le prix du marché actuellement sur certains sites, ils ont en moyenne entre 150 000 et 180 000 kilomètres.
C'est pas un problème.
Ça fait des véhicules qu'on a à peu près, qui sont dans les tarifs, dans les 12-13 000 euros.
Ouais. Alors, ça tombe bien en fait. Ça tombe bien parce que je connais quelqu'un, il s'appelle Jean-Luc Moreau, qui en a un depuis 2005 de RX400H.
Oh ben, s'il avait su, il aurait pu avant.
Mieux vaut tard que jamais.
Je vais vous dire, Fabrice, je vais vous dire, en 15 ans, je n'ai même jamais changé une ampoule sur cette voiture. Le seul truc que j'ai changé, même pas les plaquettes de frein, c'est pour vous dire, j'ai changé les pneumatiques. Voilà. C'est le seul truc que j'ai changé en 15 ans. Si, je mets de l'essence dedans quand même.
Oui, voilà. Ouais. Et l'huile un peu?
Non, il ne mange pas une goutte d'huile, rien du tout. Non, mais c'est un truc incroyable.
Vous la portez quand même à réviser de temps en temps.
Je la porte à réviser, mais bon, et même les révisions ne sont pas extrêmement chères. Ça a été ma plus grande surprise avec cette voiture, c'est que d'abord, les révisions ne sont pas très chères. Alors, s'il y en a une qui est chère, c'est au moment où il faut changer la courroie de distribution, mais c'est comme sur toutes les voitures où il faut changer la courroie de distribution. Il y a un moment, voilà, vous passez à la caisse, ça coûte un peu cher. Ça, c'est le truc. J'imagine que sur les modèles d'occasion que vous avez vus, ça a déjà été fait, donc c'est pas un entretien que vous aurez à faire bientôt. Après, cette voiture, je vous conseille, alors vu les prix extrêmement bas de ces modèles, je vous conseille de prendre ce qu'on appelle le pack président, donc la version super équipée avec l'intérieur tout cuir, avec la chaîne IFI Mark Levinson qui est juste d'une qualité une qualité extraordinaire avec les sièges.
Il y a du beurre avec aussi ou pas?
Ouais, c'est ça. Ouais, vous avez du beurre, vous avez même les sièges chauffants pour faire fondre le beurre.
Ouh là là.
Non, il y a les sièges à réglage électrique, chauffant, le volant est à réglage électrique. Enfin, l'équipement, il est pléthorique sur cette voiture. Et alors en fiabilité, vous pouvez presque y aller les yeux fermés.
D'accord. C'est une bonne voiture.
Ah oui, c'est une voiture extraordinaire.
Qu'il y a un modèle particulier que vous pourriez recommander?
Oui, non, mais je lui dis, il prend le pack président, voilà.
Mais autrement, en termes de motorisation, etc.
Non, mais c'est tout. C'est le même moteur à chaque fois. C'est un gros moteur V6 avec deux moteurs électriques. C'est 4 roues motrices.
D'accord.
C'est hybride. Bon, alors en conso, vous serez... Je ne sais pas quel type de trajet vous faites, Fabrice.
Moi, je fais essentiellement en fait des gros trajets sur les départs en vacances, trois fois l'année sur des gros trajets où je vais faire 1400 km aller-retour.
Ouais, ça consomme 9 litres quand vous faites du gros trajet. Oui. Et quand vous êtes en ville, ça peut descendre à 7,5 litres en ville.
Oui. Oui, bah, de toute façon, après, moi, je fais des trajets pour aller au travail d'un quart d'heure.
Ouais.
Avec une petite parcelle d'autoroute.
Vous allez voir, c'est, hein, c'est ça. Ça dépote, hein. Quand on accélère au feu rouge, il n'y a pas grand chose qui suit derrière, hein.
Je vais être honnête avec vous, c'est ce que je recherche un petit peu aussi.
Ah ouais, non, il y a vraiment des watts.
Actuellement, j'ai un Dacia Docker.
Ah, ça va vous changer la vie. Vous allez passer
Il me fallait un côté pratique avec ce véhicule.
D'accord.
C'était l'époque coulissante. Donc, forcément, avec un enfant en bas âge, c'était plus facile, en fait. C'était pour ça qu'on avait acheté ce véhicule, qu'on avait pris en LOA. Donc, il va pas tarder à se terminer. Donc, c'est pour ça qu'on réfléchit à autre chose.
En plus, là, vous n'allez pas payer la carte grise. Vous êtes dans quelle région?
Je suis en 78 à côté de Montagnard.
Ouais, bah voilà, la carte grise va être gratuite, donc c'est déjà une économie, hein, puisque c'est un véhicule hybride. Ouais. Vous aurez une vignette Crit'Air 1 qui vous permettra de, même si la voiture est ancienne, qui vous permettra de circuler dans Paris, même quand il y aura les vraies grandes limitations de circulation, on pourra encore circuler avec ces voitures-là. Donc allez-y, hein. Là, je ne peux que vous encourager sur ça.
C'est aussi pour ça que j'avais pensé à ce véhicule, parce qu'après, dans les véhicules hybrides, il y a des tarifs pour nous abordables, parce que on va dire qu'après, ça commence à rentrer à taper fort, personnellement, au niveau budget. C'est pour ça qu'on s'était dit que dans ces véhicules-là, ça pouvait être intéressant. Mais j'avais voulu avoir votre avis avant que vous arrêtiez votre émission.
Voilà, bah, écoutez, vous l'avez. Et puis je vous dis, en plus, moi, ça fait 15 ans que je roule avec ça. Je ne vais pas m'en séparer. Parce qu'on me dit, ouais, pourquoi tu ne le changes pas? Et pourquoi je le changerais? Il marche super bien. Il est nickel. Il y a rien qui déconne. L'intérieur cuir, il est d'une qualité absolument. Le cuir est d'une qualité incroyable. Je vais pas changer un truc qui marche bien. J'ai une Sono à l'intérieur. J'arrive à en écouter quelques-unes qui sont un peu meilleures dans des modèles récents. Mais franchement,
Et en plus, c'est quelque chose qui vous intéresse, en fait.
Oui, moi, ça m'intéresse. Ça. Ouais, non, c'est faut pas. Je le fais même. Alors, je vous le dis, hein. Je le fais même rouler moitié-moitié à l'éthanol. Ça roule sans problème.
En plus.
Voilà.
D'accord. Moitié-moitié.
Ouais.
Parfait. Fabrice, merci pour votre appel. Et donc, vous pouvez y aller, hein, les yeux fermés. On enchaîne maintenant avec notre minute vertu à RMC.
RMC, votre auto.
La minute verte.
Alors là, on va ouvrir un débat. Le dernier débat de ce week-end des experts auto, Jean-Luc, et on va parler d'électrique. Avec, vous le savez, cette possibilité d'avoir un freinage régénératif. Lorsque vous avez un véhicule électrique, voilà, vous lâchez l'accélérateur.
Alors un véhicule électrifié, parce que même une voiture hybride, quand on ralentit,
elle récupère de l'énergie.
Elle récupère de l'énergie. Une grande partie du freinage va être effectuée par le moteur électrique, qui se transforme en générateur lorsqu'on lève le pied de l'accélérateur et donc ralentit la voiture, voire même dans certains cas carrément la freine et profite de cette énergie donc qui est récupérée pour recharger la batterie. Donc, sans doute à tort, beaucoup de gens imaginent que plus on va avoir de récupération d'énergie en décélération, c'est-à-dire au moment où je lève le pied, plus ça va freiner, plus c'est intéressant, parce qu'on se dit, tiens, je vais récupérer plus d'énergie.
Oui, puisque la voiture va freiner, donc elle va,
Elle va plus recharger la batterie. Donc, beaucoup de gens ont ce sentiment trompeur que quand on lève le pied et que ça recharge beaucoup, on va faire des économies. Eh ben, c'est pas du tout vrai. Et qui a fait, alors là, pour le coup, je suis très content parce que vous savez, Volkswagen, ils ont pris un virage pareil, comme beaucoup de constructeurs, d'accord, d'ailleurs. Mais eux, c'est vraiment à 180 degrés. Ça veut dire que demain, la politique de l'électrification va être intense. Donc, ils ont plusieurs modèles qui sortent. Il y a l'ID3, qui est déjà sorti, qui est la berline. Il y a l'ID4 qui va arriver, qui est un petit SUV. Et ils se sont posé la question, mais vraiment, en se disant, voyons, on veut proposer un véhicule avec l'efficacité énergétique la plus grande. Qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place comme type de régénération? Ah, ils ont fait tout un tas d'études. Alors déjà, ils sont partis d'une constatation, c'est que en mode roue libre, on n'a pas de conversion d'énergie. Et comme chaque conversion d'énergie n'est pas efficace à 100%, vous avez toujours des pertes. Vous avez toujours une perte de rendement. Même avec un moteur électrique qui est très bon, quand vous transformez de l'énergie cinétique, c'est-à-dire l'élan de la voiture, en énergie électrique, vous convertissez pas 100% de cette énergie. Il y a toujours une perte. Quand vous allez réaccélérer, vous allez également avoir une perte, même si l'efficacité d'un moteur électrique est d'environ 95%, à comparer au, on va dire, 30% d'efficacité d'un moteur thermique en vrai fonctionnement, hein, leur efficacité théorique maximale, c'est entre 41 et 42%, aussi bien pour les essences. Les derniers moteurs essence, c'est 40%. Les diesels, on est à 42, 43%. Mais ça, c'est vraiment à un point de rendement donné. Donc, on va avoir quand même une perte d'énergie. Donc, la meilleure solution pour pas avoir de perte d'énergie, c'est la roue libre. Donc, ils se sont dit, on va faire un système avec de la roue libre. C'est-à-dire que pendant la majorité des manœuvres... Tiens, on a Monsieur François Alain qui est derrière le bocal. Il va rentrer dans le studio. On a, au moment où on va lever le pied, on va avoir une décélération qui est très faible. On va rester sur de la roue libre. Mais, en fonction, c'est là qu'ils sont très très forts. C'est là qu'on franchit une nouvelle étape dans l'automobile. On va avoir un système d'éco-assistance qui va fonctionner avec le GPS de la voiture, avec tout un tas d'informations. Et en fonction de la topographie du parcours, on va avoir ou pas de la régénération électrique. Je m'explique.
Ouais,
je lève le pied sur du plat, je suis en roue libre, c'est là que je fais le
Je ne recharge rien, mais voilà. C'est plus efficient.
C'est plus efficient. Je suis dans une descente, je lève le pied. Là, j'ai pas besoin d'avoir de la roue libre. Je lève le pied dans la descente.
Là, ça
je vais
que je
avoir
recharge.
De la récupération électrique et je vais recharger. Je vais recharger sans trop freiner la voiture pour pas avoir besoin de la réaccélérer si plus loin il y a un plat. D'accord. Mais la voiture, elle sait déjà.
Elle sait déjà qu'il va avoir un plat
après. Donc, on va avoir une efficience en fait qui va être beaucoup plus intéressante et c'est ce qui permettra demain. Alors, c'est en même temps, c'est on va dire une des étapes. De la voiture autonome, puisque la voiture autonome fera ça toute seule, puisqu'il n'y a plus de conducteur. Mais déjà, on l'a de disponible, même avec un conducteur à bord. La voiture gérera elle-même tout ça. Alors, il y aura évidemment différents modes de sélection. Pour ceux qui préfèrent, bon, quand ça freine, à partir du moment où on lève le pied, ils pourront quand même sélectionner ça. Mais le mode le plus efficient en automatique sera ça, c'est-à-dire un mélange à la fois de roues libres assez souvent et de freinage régénératif plus marqué quand on sera, par exemple, dans les descentes.
Et ça arrive quand, ça?
Mais là, ça y est, 2021, on y est. Hein.
D'accord. Alors évidemment, ça sera sur les voitures haut de gamme, j'imagine.
Oui, non, ça sera sur l'ID4.
Avant que ça arrive sur la Zoé.
Oui, l'ID4, elle arrive là, dans les semaines qui viennent.
Et excusez-moi, mais peut-être l'avez-vous dit, mais ça m'a échappé, on peut économiser combien de pourcentage, en fait, ou récupérer combien de pourcentage?
Alors, il n'y a pas d'études précises qui disent on va récupérer...
Faut dire que c'est compliqué.
Ben oui,
mais l'investissement supplémentaire vaut le coup, votre avis?
Non, mais il n'y a pas d'investissement, on a déjà tous les éléments qui sont dans la voiture. Ensuite, c'est que
enfin,
du soft.
Oui, mais ça coûte de l'argent.
C'est que
j'imagine
du soft.
Qu'il faut capteurs,
déjà une voiture électrique. Non, même pas. C'est que du soft qui est basé. Là, vous vous servez des infos du GPS, vous servez du moteur électrique, vous servez des capteurs de la voiture. Alors, quand vous me dites on récupère combien, ça dépend à quelle vitesse vous êtes, si vous avez du vent de face.
Oui, mais c'était en moyenne, quoi.
Non,
avec
ce
système-là, on gagnait 5, 6, 10%.
Quelqu'un de très efficient avec une voiture électrique peut récupérer presque 100% de l'énergie cinétique. Alors, pas 100%, parce que j'ai dit, il y a une perte.
Oui.
Il y a une perte qui est due au rendement du système. Mais on peut pratiquement ne jamais se servir des freins mécaniques. Sur certains véhicules électriques, on n'aura pas besoin de servir des freins mécaniques.
Bon, de temps en temps, il faut freiner quand même, non?
Il y a des véhicules comme la Leaf avec le e-pédale.
Oui, c'est vrai, on lâche.
On peut s'arrêter.
Oui, c'est clair. Jean-Luc, on revient dans un instant. Notre François-Alain National est arrivé. On va le retrouver dans une minute, juste après cette petite pause. Et on évoquera avec lui les événements de l'année 2021 qui vont marquer cette année dans le monde de la voiture ancienne. Ah, ça aussi, ça va me soulager quand même qu'on arrête ça, parce que là, on était au bout du rouleau, les amis.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis maintenant. Allez, à tout de suite, on revient après cette petite pause et promis, on sera un petit peu plus sérieux. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Nous voilà de retour, le week-end des experts, l'automobile. Bonne année, encore une fois, à vous toutes et à vous tous, on ne le répétera jamais assez. Et puis, d'habitude, vous savez, on vous souhaite bonne année tout au long du mois de janvier. Là, ça va être un peu compliqué parce que, autant, je le disais tout à l'heure, c'est la première émission de l'année, mais ça va être aussi la dernière. Donc, il va falloir qu'on dise un maximum de choses quand même. Avec toujours Jean-Luc Moreau à mes côtés.
La saison 2021 ne va pas être compliquée à suivre en ce qui concerne votre auto.
Ah, non, ça c'est
sûr. Vous pouvez même la garder en podcast dans votre téléphone.
C'est une mini-saison. Voilà.
Ouais, une boule de cristal, on ne sait jamais. Peut-être qu'on peut voir dans l'avenir.
Bonne année, monsieur François Alain.
Bonne année, messieurs.
Et bienvenue. Bonjour.
Et bienvenue,
merci d'être là pour cette dernière. C'est gentil.
Très honoré d'avoir été convié pour cette dernière émission d'une émission que j'adore aussi et que je regrette devoir partir. Voilà.
Bon, alors en revanche, la saison 2021 se poursuit pour François Alain sur RMC Découverte.
Oui, oui, au mois de mars, sixième saison de Vintage Mécanique.
Et oui, donc, sixième, ça va. On va dans le 427e.
Bonjour, nous sommes en 2048. 72e saison de Vintage.
Bah, le jour où tu feras ton émission depuis un fauteuil roulant, on se dira là, on est voilà. Au bout du rouleau. Quoi.
C'est Vintage Déambulateur.
Bon, François, bah, en tout cas, merci de nous avoir accompagnés durant toutes ces années. C'est vrai que tu nous as fait partager ta passion des véhicules anciens, tout comme Jean-Luc d'ailleurs. Hein,
ah, il adore ça. Hein. Jean-Luc,
moi, j'allais dire ta passion des vieilles.
des vieilles voitures.
Des vieilles voitures, bien sûr.
Ah, non, j'ai toujours aimé les mamies.
S'il vous plaît, c'est la dernière. On a été relativement propre pendant toutes ces années. J'aimerais qu'on le reste là pour cette dernière.
C'est
là,
justement, en plus, c'est les 70 ans de la ronde voilà. Cette année. Donc, en plus, les vieilles mamies rondes.
J'ai un partenariat avec Confiance.
Bon, alors, on va jeter un œil sur ce qui va se passer en 2021 dans le monde de véhicules anciens.
Il va passer plein de trucs. Tiens, on commence peut-être par les événements.
Oui,
c'est une année
sûr.
Qui va être normalement. Alors, on va dire normalement, parce qu'on est en janvier, normalement, on devrait être riche en événements. Bon, il n'y a pas eu Rétromobile l'année dernière. Ouais. Donc, on devrait avoir Rétromobile en 2021. On devrait.
Oui, mais tu sais,
après, toujours cette épée de Damoclès de la pandémie. Bah,
c'est compliqué parce qu'évidemment, les événements ont été reportés pour certains, annulés pour d'autres. Donc, il y a forcément des télescopages de dates qui vont se passer. Donc, c'est compliqué. Bon, voilà, ceci dit, il faut s'adapter aussi. Hein. La situation a été compliquée, on fait avec. Mais c'est vrai qu'il y a des tas d'événements qui vont se télescoper. Donc, c'est perdant-perdant pour certains. C'est dommage, mais voilà, c'est la vie. Ensuite, chacun défend son bout de gras, ce qui est logique.
Bon, là, c'est prévu du 2 au 6 juin, normalement. Ouais. Pour l'instant, c'est maintenu.
Mais je pense pas qu'à Rétromobile, je pense à l'ensemble de tous les événements, de tous les salons, de toutes les sorties, de tous les rallyes. Enfin, ça va être encore une année forcément compliquée. Espérons que 2022 sera une meilleure année.
Bon, on aura là, en revanche, c'est un petit peu plus loin. Enfin, quoi que plus loin, c'est un mois après. Il y a le Mans Classique. Là, c'est un gros, gros, gros morceau.
C'est un très gros morceau aussi, bien sûr. Donc, espérons aussi que le Mans Classique sera maintenu. Ce qui est important de dire, c'est que tous ces événements-là, c'est des événements qui concerne aussi les étrangers, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de collectionneurs et de passionnés qui viennent d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique, du Luxembourg.
Oui, il y a 8500 voitures de collection, il y a plus de 100 000 spectateurs, c'est un gros événement.
Et des États-Unis et compagnie, bien sûr.
2-3-4 juillet, normalement. Et puis, alors vous avez sans doute le faire, Monsieur François, mais le Tour Auto, c'est le 30e anniversaire du Tour Auto.
C'est le 30e anniversaire du Tour Auto, donc on dit jamais 203, moi je dis souvent jamais 204, donc ça tombe bien, puisque donc ce sera ma quatrième participation.
En 204, alors.
Je ne sais pas, peut-être, on verra. Non, il y a plusieurs hypothèses, mais bon, ce sera une française, voilà.
Ouais, c'est quand ça, le Tour Auto ?
Ce sera fin avril.
19 au 24 avril.
Voilà. Donc, je serai encore en voiture française.
Non, mais il faut vraiment qu'on sorte de cette épidémie parce que évidemment, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Hein.
Ouais, absolument. Il faut positiver.
Il faut positiver.
Il faut se dire, il faut qu'on essaye de positiver.
Bien évidemment.
Parce
bien
que c'est vrai que pour le moral, tout ça, ça a été compliqué. Et
faut vacciner les vieilles voitures.
Je pense qu'elles sont déjà vaccinées quelque part. Elles en ont vu.
Elles en ont vu des verres pas mûrs.
Ouais, c'est ça. Donc, mais bon, il faut maintenir ce patrimoine. Il faut le montrer. Il faut le sortir. Il faut rappeler tout ce que ça représente. En travail, en ingénierie, en
mais
tout ça.
Mais je suis persuadé qu'il y a plein de propriétaires de voitures qui ont profité de cette année de confinement, etc. pour bricoler, pour bichonner leur voiture.
Absolument. Il y a beaucoup de marchands d'accessoires et de pièces détachées, notamment, qui en fait ont été très surpris.
Moi, chaque fois que j'appelais Jean-Luc, il était avec sa peau de chamois en train de frotter sur...
Avec mon chamois, même, des fois.
Avec ton chamois.
Ça, c'est ce qu'il disait, je suis pas sûr. Enfin, bon, bref. Ouais. Et donc, mais c'est vrai que du coup, les gens ont réparé, restauré, entretenu, etc. Regardez d'ailleurs les émissions au sens large d'automobile, donc on est tous très contents. Mais non, voilà, plus sérieusement, c'est vrai que c'est important qu'on maintienne tout ça et que cette passion-là perdure. Ça concerne beaucoup, beaucoup de monde en France et du côté des collectionneurs et du côté des fournisseurs, des accessoiristes, etc. et des restaurateurs. Il faut rappeler quand même qu'on fait bosser, et tant mieux, c'est super, on fait bosser beaucoup, beaucoup de monde dans cette
C'est les seuls restaurateurs qui ont continué à bosser d'ailleurs malgré le Covid.
Oui, c'est des artisans.
Parce qu'eux, ils sont pas fermés.
Voilà.
Mais par contre, on peut pas manger chez eux. Enfin, vaut mieux.
Il y a de l'huile, hein.
Il y a de l'huile pour la salade, ouais, c'est sûr, mais bon.
Voilà. Bon, il y a des anniversaires aussi cette année. Alors, il y a des marques. Il y a une marque célèbre que François a vu naître.
Bien sûr.
Il y a 130 ans.
J'étais au début de la marque Panhard.
Panhard et le Vassor. on va le dire, hein, l'automobile est née en France. Il faut arrêter avec les Allemands, France a inventé l'automobile.
Nous sommes parfaitement d'accord, mon cher Jean-Luc, et nous sommes presque d'accord, puisque pour moi, l'automobile est née bien avant l'histoire de l'automobile telle qu'elle est écrite. Le premier véhicule automobile.
Oui, alors on a un petit différent sur ça.
C'est vrai.
J'espère qu'on arrivera à le régler à la télévision dans une future émission.
Ça serait pas mal.
Pour moi, le premier véhicule automobile, c'est le fardier de Cugnot, juste avant la Révolution française.
On peut rouler.
On remonte très très loin.
Si vous partez en vacances avec le fardier de Cugnot, vous n'êtes pas arrivé.
Ah bah, on va pas beaucoup moins vite qu'une voiture électrique.
C'était
pour François. C'est moche.
Zoé, elle a un sacré couple au démarrage. Hein.
Alors que moi, ma première voiture électrique, la vraie de série, elle a fait Paris-Genève aller-retour à l'époque.
Bien.
Mieux que le fardier de Cugnot.
Bon, sans rallonge.
Ce qui est sûr, c'est que l'automobile est vraiment née en France parce qu'il y a plein de, précurseurs. Alors, Panhard et Levasseur est la plus ancienne marque française, suivie de très très près par Peugeot. Mais. La création de l'automobile, il y en a plusieurs cas de figure.
On parle de Peugeot automobile, hein, parce qu'il y a des gens qui vont nous dire Peugeot a fêté ses 200 ans.
Oui, parce que Peugeot avant fabriquait des lames de scie et des crinolines, bien sûr, et c'est une histoire industrielle très riche. Mais l'automobile, de toute manière, il y a plein de preuves que l'automobile est vraiment dans les gènes françaises. Voilà, je l'ai dit.
Ouais. Alors, les 110 ans de Chevrolet, alors vous allez me dire, mais c'est pas français.
Eh ben si.
Mais, presque, en fait.
Presque. Peu suisse.
Ouais, parce que Louis Chevrolet, il était suisse. Voilà, bon, il est parti. Il travaillait chez Darac, en plus, qui était une marque française.
Que t'as bien connu.
Oui. Non, mais Darac a sorti au début du 20e siècle des voitures qui étaient 4 roues motrices, des choses qu'on imaginait sorties par Audi.
Mais bien sûr.
À la fin des années 80 et en fait qui existaient déjà.
Tout a été inventé au 19e siècle. Voilà. À la fin du 19e siècle, on savait tout faire. À vapeur, voiture électrique, voiture hybride. On savait tout faire. On ne fait que réinventer.
La première Porsche bien était sûr. Hybride, mon bon monsieur, bien en sûr. 1900.
Absolument.
Était quoi, hybride électrique
Exactement.
Et Jean-Luc s'en souvient très bien, il était à l'école.
Oui, je l'ai essayé.
d'où vient tous les deux, parce que ça fait des années que je vous écoute et parfois je suis impressionné par votre savoir, d'où vient en fait toute cette culture de l'auto?
Moi, j'ai pas d'explication en fait, parce que j'ai
parce que tout petit, t'étais plongé là-dedans, tu lisais tous les bouquins.
Oui, mais pas plus que ça. Enfin, j'ai toujours.
Tes parents, ton père, étaient passionnés de ça.
Non, pas du tout. Mon père roulait. C'était un automobiliste standard lambda. J'ai pas de gène direct. Alors, j'ai quelques cousins, mais j'ai pas de gène direct et j'avais pas de poster de voiture dans ma chambre en fait. Donc
c'est venu un petit peu plus tard.
C'est venu plus tard. Et puis le côté vintage en fait, moi, m'a toujours plu. Ma première voiture, c'était déjà une voiture vintage. J'avais pas les ronds pour une 205 c'est GTI, c'était clair.
On a tous rêvé de la 205 GTI, j'avais pas non plus l'argent.
Et Jean-Luc, d'où vient cette passion?
Alors moi, mon papa, il était mécanicien déjà l'automobile. Il y avait déjà quand même quelque chose. Puis j'ai toujours été passionné par l'automobile. Je lisais Sport Auto, je lisais l'Autojournal. Quand j'étais gamin, j'étais abonné à Sport Auto et Science et Vie. Ouais. Il y avait deux choses complètement différentes, mais ça me passionnait. Bon, avant, il y avait le journal de Mickey, mais ça c'était un petit.
Moi, c'était Pif Gadget. Hein, chacun son truc. Hein,
ça c'était avant. Et puis j'ai toujours aimé. Alors moi, j'ai eu quelques posters quand même de voitures dans ma chambre. Puis évidemment, quand
pas que des posters de voitures.
Ah, mais ça, on n'a dit pas la vie privée. C'est beau être la dernière, on n'a dit pas la vie privée. Non. Et puis après, c'est vrai que quand j'ai passé mon permis de conduire, bon, j'étais déjà passionné par les voitures avant. J'ai fait de la moto du deux roues avant de faire de la voiture. J'étais passionné par les motos. Je suis toujours passionné par les motos et j'ai été passionné par les voitures tout de suite. Et la première fois que je suis monté dans une voiture qui avait un petit peu de chevaux et qui accélérait fort, je me suis dit, mais c'est fabuleux, c'est génial. Toutes les sensations qu'elle est avec. J'ai eu la chance de monter avec Harry Vatanen quand il faisait les essais de la 405 Turbo 16 Evolution 2. Ça reste un de mes grands moments. J'étais monté avec parce que je travaillais pour mes vacances à Radio 2 Alpes et j'étais monté avec un magnétophone avec l'ambition de faire un direct, enfin d'enregistrer en étant passager de Harry Vatanen. En fait, on est arrivé en haut du col. J'avais pas mis en route le truc parce que tellement j'étais terrorisé.
En fait, dans les bronzés font du ski, le mec qui se fait virer parce qu'il veut une crêpe au sucre, c'est lui.
C'est ça.
Bah bon. Non, donc ça a toujours été une passion. Il y a des anniversaires. Il y a quelques anniversaires quand même cette année. Hein. Je disais la ronde tout à l'heure.
Oui.
Pourquoi ? Parce que mon papa, sa première voiture, c'était une Aronde.
Une Aronde.
Donc c'est pour
moi
ça que j'y tiens. Voilà.
Il y en a eu
une
trois.
Simca Aronde.
Trois Aronde, mon papa. Ouais. Trois Simca.
Voilà. Après, il y a eu la Mi 6. Bon, voilà. C'est un peu plus spécial en termes de...
Il y a quand même les 60 ans d'une voiture que Jean-Luc vénère. Et moi aussi, mais lui encore plus que moi. Il a la chance, lui, d'en posséder une. C'est une Jaguar Type E.
Ah oui, la plus belle voiture du monde.
C'est une des plus belles voitures
du monde.
Une voiture
fabuleuse à conduire, c'est juste une pure beauté. Elle a
quel anniversaire ?
60 ans comme la 404 Cabriolet et comme la Triumph TR4.
Voilà, dites-moi. 60 ans. Et vous savez que cette Jaguar Type E, elle avait été présentée à Genève et qu'il y a eu un tel engouement pour la voiture que le patron de Jaguar a dit « Oh là là, demain au salon de Genève, les gens vont, ça va être l'émeute sur le stand, il faut qu'il y ait une voiture... » qui reviennent d'Angleterre. Donc, ils ont appelé le pilote d'essai qui était en train de faire des essais avec, avec une Type Cabriolet. Ils lui ont dit, il faut que tu sois demain matin au salon de Genève. Donc, il est parti. Non, mais sérieux, hein, à l'époque, il n'y avait pas d'autoroute.
Non. Il a roulé toute la nuit. Enfin.
Il a roulé toute la nuit. Il a pris le bateau parce qu'il fallait prendre le bateau. Il n'y avait pas le
tunnel
sous la Manche. Il est arrivé à l'heure. Il a fait 110 de moyenne sans autoroute.
Mon Dieu.
Entre Coventry et Genève, il a traversé. Alors, il l'a dit longtemps après, mais il a traversé. Il fallait traverser Londres. Il n'y avait pas de contournement de Londres. Il a traversé Londres à 160 km/h de moyenne.
C'était plus facile de rouler à l'époque.
Oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, il irait directement en prison.
François, merci. Plein de bonnes choses pour Vintage Mécanique qui se poursuit.
À partir du mois de mars. Voilà.
Et puis, je suis quand même content d'une chose, c'est que. Cet arrêt du week-end des experts auto permet à Jean-Luc de s'inscrire sur Facebook. Ça, c'est quand même une grande information.
Voilà.
Vous pourrez le retrouver sur Facebook.
Voilà. Et ben, il n'y a pas de souci. Avec plaisir, les amis. Et quoi qu'il arrive, à très bientôt.
Oui, à très bientôt, François, bien évidemment. Jean-Luc, on revient pour notre deuxième heure dédiée à l'automobile avec Maître Rémi Jossaume qui sera là.
On va évoquer le deuxième volet de ce qui nous attend pour 2021.
Chouette.
Et ça sera le volet juridique. Vous imaginez plein de bonnes nouvelles, puisque
plein de réjouissances.
On va vous
évidemment.
Diminuer les amendes, vous restituer des points gratuitement. Enfin voilà, tout ça.
Tout ça, ça va être cool. 32-16 hein, pour toutes vos questions aussi qu'on va retrouver dans un instant, ou bien l'appli RMC Direct Studio.
Il y aura moins de radars. Enfin voilà.
À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.